Sans contredit, nous vivons une époque où se produisent de grands changements, de grands brassements dans tous les domaines. Chaque jour, les véhicules de l'information que sont la radio, la télévision et les journaux nous mettent au courant des nouvelles inventions, des découvertes récentes, plus surprenantes les unes que les autres. Tout cela nous touche de près. Nous ne vivrons pas aujourd'hui comme il y a 30 ans. Encore moins comme il y a 50 ans, du moins matériellement. Notre mode de vie s'est considérablement amélioré, et si l'on fait des comparaisons entre 1966 et 1866, les différences sont tellement énormes qu'on est presque enclin à considérer cette époque-là comme moyenâgeuse. À vrai dire, nous nous sentons parfois un peu dépassés, voire même effrayés par tout ce qui se passe et tout ce qui se prépare autour de nous. Mais nous l'acceptons avec une sorte de résignation qui ressemble à un fatalisme. C'est le progrès, et on n'arrête pas le progrès. Ce mot-là suggère surtout le vieillissement des choses passées, puis leur disparition lorsqu'elles sont remplacées par les choses modernes. La question qui se pose de plus en plus de nos jours est la suivante. Peut-on concevoir une modernisation de la religion? Emportés qu'ils sont par la formidable locomotive du progrès, il semble que les hommes se soient imaginés que tout est appelé à changer, que tout doit changer, non seulement les choses, mais aussi les idées, et en particulier les idées religieuses, les principes religieux. Or, s'il y a des choses qui sont appelées à s'améliorer avec le progrès, il en est qui ne souffrent pas de changement, car elles demeurent toujours vraies, toujours valables, toujours indispensables telles qu'elles sont. Les modifier serait les détruire. Ainsi en est-il du message du Christ, c'est-à-dire l'Évangile. À cet égard, l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de la Galatie « Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Malheureusement, l'homme moderne a la manie de tout adapter à ce qu'il appelle la psychologie moderne, aux exigences de la vie moderne. L'évangile a été remanié, revu et corrigé pour mieux l'adapter aux formes modernes. En général, la révélation est considérée comme périmée et on n'en parle même plus. Ou si l'on en parle encore, c'est à titre de curiosité, mais presque jamais comme le document de la volonté de Dieu à l'égard des hommes. Le sens de certains mots même a évolué avec les exigences de la psychologie moderne. Des mots comme honnêteté, moralité, intégrité ont gardé leur orthographe, mais ils désignent des attitudes et des situations plus qu'équivoques. Les hommes ont peu à peu étouffé les lois spirituelles et morales de Dieu sous prétexte qu'elles étaient incompatibles à notre XXe siècle. Et en cela, ils se sont plongés dans la confusion et dans la corruption. Ils ont remplacé l'amour par l'égoïsme, la paix par les disputes et les guerres, la patience par l'animosité, la brutalité et la force. La tromperie et la duplicité sont souvent les caricatures de la fidélité. Et on ne parle plus de la tempérance, car elle est noyée dans le flot des excès de toutes sortes. C'est un dérèglement qui s'installe à presque tous les niveaux de la société. Foyer, école, gouvernement. Nos jeunes gens n'ont pas d'idéal. Et l'exemple de leurs aînés est lamentable. Faut-il s'étonner s'ils se révoltent à leur manière? Il faut l'avouer. Dans toute sa splendeur extérieure, notre monde moderne est moralement malade. Pour utiliser une expression biblique, notre monde est dans les ténèbres, dans la mesure où il refuse la lumière apportée par le message du Christ. Il existe cependant des hommes et des femmes sincères qui veulent se laisser éclairer par cette lumière qui vient d'en haut. Ils veulent résister au souffle ambiant parce qu'ils sont restés spirituellement lucides. Ils ne veulent pas faire naufrage. Ils cherchent une ancre sûre, solide, un roc immuable dans une mer de doute, d'incertitude et d'insécurité, au milieu des doctrines et des philosophies changeantes et des principes humains contradictoires. Alors, ils reviennent à la parole de lumière. Ils s'attachent à ce qui demeure éternellement lorsque tout aura sombré. Car toute chair est comme l'herbe, nous rappelle la Bible, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Jésus déclara lui-même solennellement « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus rend à Dieu ce témoignage « Ta parole est la vérité ». Et la vérité, chers auditeurs, ne peut pas varier. Elle ne peut être ni altérée ni modifiée, car elle ne serait plus la vérité. Par contre, il suffit de jeter un petit regard en arrière pour juger de la fragilité et même de la présomption de toutes les vérités énoncées par les hommes, même de certaines vérités dites scientifiques. Les affirmations des hommes changent, s'annulent et se contredisent si souvent que ce serait folie de construire toute une vie intérieure sur les prononcements et la pensée de créatures dont la vie est aussi fragile et éphémère que l'herbe des champs. Les hommes sensés reconnaissent de plus en plus combien il est important de s'arrêter quelques instants au milieu des activités trépidantes de notre existence, pour méditer sur le fait que le Créateur de l'univers nous a parlé une fois pour toutes, et que les paroles qu'il nous dit sont des paroles de vie, de vérité et d'orientation. Il convient de se rendre compte que ce n'est pas Dieu qui doit se plier à nos caprices et à nos préférences, mais nous devons céder devant son autorité en acceptant la solution qu'il propose, le salut qu'il nous offre par le moyen qu'il a préparé d'avance depuis toujours. En un mot, on n'adapte pas l'Évangile aux hommes. Ce sont eux qui doivent construire leur vie d'après les plans immuables de l'architecte souverain. Par exemple, lorsque Jésus dit « Allez, prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Le Seigneur nous dit d'aller. Comment irons-nous? Nous pouvons aller à pied, en voiture, en avion. Le monde moderne collabore avec nous pour aller vite et loin. Quant au message lui-même, quelle que soit la méthode employée pour le présenter, chacun s'en tiendra néanmoins scrupuleusement au texte de la parole, tel qu'il nous a été transmis par les apôtres. Les conditions du salut seront présentées aujourd'hui comme au premier siècle, et rien ne nous autorise d'en modifier les termes. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'était vrai alors, c'est toujours vrai aujourd'hui. Lorsque l'Évangile fut prêché pour la première fois par les apôtres, c'était à Jérusalem, il y a environ 1900 ans, une question jaillit de la foule. Que devons-nous faire pour être sauvés? Hommes, frères, que ferons-nous? Savez-vous quelle fut la réponse des apôtres? Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. 3000 personnes reçurent le baptême par immersion ce jour-là. Cela n'a pas dû être très pratique pour les baptiser tous par immersion, mais cette considération était tout à fait négligeable. Ceux qui furent ainsi baptisés constituaient la première église du Christ. Il y en eut bientôt dans les principales villes de l'Empire romain, de sorte que l'apôtre Paul pouvait dire triomphalement « Toutes les églises du Christ vous saluent ». Ces églises avaient un culte, une organisation, une doctrine, une mission, bref, une identité. Dans les siècles qui suivirent jusqu'à nos jours, les hommes modifièrent considérablement l'aspect de cette église que le Christ avait fondée sur sa parole. Peu à peu, le culte chrétien perdit sa simplicité première et sa spontanéité, en s'embarrassant d'une liturgie interminable et compliquée. L'organisation de l'Église se détériora et visa la puissance politique plutôt que la gloire de Dieu. Parallèlement, la doctrine de l'Église primitive subissait d'abondantes modifications. De nombreuses innovations furent apportées au premier ordre des choses, au nom d'une certaine évolution doctrinale, d'un nécessaire développement, comme si ce que le Christ et ses apôtres avaient fondé n'avait été qu'un embryon d'Église, avec une organisation temporaire et une doctrine rudimentaire. Bref, une église primitive, dans le sens péjoratif du mot. Un examen des Écritures nous met au contraire en contact avec une église du Christ fermement établie au premier siècle. Elle est composée d'hommes et de femmes baptisés en Jésus-Christ, ayant pour mission le salut des âmes par la prédication de l'Évangile. Or, pour remplir cette mission, il fallait que cette église fût forte, il fallait qu'elle disposât d'une doctrine sûre et saine, il fallait qu'elle fût bien dirigée. Et c'était le cas. Ce que l'Église a fait il y a 20 siècles, elle peut encore le faire aujourd'hui, sur les mêmes bases. Ce que l'Église a été il y a 20 siècles, elle peut encore l'être aujourd'hui. Car l'Église est le fruit naturel et logique de la prédication de l'Évangile du Christ. Elle demeure l'Église dans la mesure où elle demeure dans l'Évangile. Elle perd son identité lorsqu'elle confond loi humaine et loi de Dieu. Méditons pour terminer cette recommandation qui se trouve à la dernière page du Nouveau Testament. Elle reprend avec fermeté, sous la plume de l'apôtre Jean, un thème très répandu dans toute la Bible. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit : « Oui, je viens bientôt. »